Maintenant, je vais vous présenter le conférencier de ce soir. Donc, Michel Bonin est né en 1949. Il est maître de conférences à l'EHESS. Pour ses diplômes, il a un CAPES de chinois, un doctorat de l'École des hautes études en sciences sociales. Pour son parcours, 1973-1977, lecteur en langue et littérature française à l'Université de Hong Kong. Depuis 1978, chef de travaux puis maître de conférences en histoire contemporaine de la Chine à l'École des hautes études en sciences sociales. De 1991 à 1998, création et direction du Centre d'études français sur la Chine contemporaine et détaché à Hong Kong comme directeur de l'antenne de sinologie. Pour ses spécialités, recherche dans le domaine des évolutions sociopolitiques de la République populaire de Chine, mouvement démocratique, migration de population, pardon, emploi, analyse du régime politique. Pour ses publications, Michel Bonin a écrit de nombreux articles dans les revues nationales et internationales. Il est fondateur et directeur des revues bimestrielles du CEFC, Perspectives chinoises et China Perspectives. Ses principales publications sont 1978, avoir 20 ans en Chine, à la campagne Le Seuil, 1980, Le printemps de Pékin, aux éditions Gallimard, et 1991, Le tremblement de terre de Pékin, aux éditions Gallimard. Je lui cède maintenant la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec notre public. Merci.
Merci. Ma conférence de ce soir traitera d'un sujet qui est comment définir le régime politique chinois aujourd'hui. Et en fait, par rapport à ce titre officiel, j'ai rajouté une deuxième question, comment pourrait-il évoluer ? J'ai ajouté cette question parce que je me suis aperçu que, en général, on demande aux historiens de parler de l'histoire, mais en ce qui concerne les historiens de la Chine, on leur demande toujours de parler du futur. Donc, je vais au-devant de vos questions. D'abord, pourquoi cette question ? Simplement parce que je me suis aperçu qu'après plus de 20 années d'application de la politique de réforme et d'ouverture lancée par Deng Xiaoping fin 1978, la Chine a connu des changements importants. Elle s'est modernisée à vive allure, elle s'est orientée vers une économie de marché, elle a emprunté de nombreuses méthodes de gestion de type capitaliste, elle s'est ouverte au modèle de la société de consommation occidentale, et elle a accueilli très largement les capitaux étrangers. En plus, son entrée récente dans l'OMC symbolise son intégration à l'économie mondiale. La mutation socio-économique qui s'est ainsi réalisée a même trouvé une forme de traduction politique lorsque le Parti communiste, lors de son 16e congrès, qui s'est tenu récemment, a décidé officiellement d'accepter en son sein des entrepreneurs privés, c'est-à-dire des capitalistes. Pour certains, toutes ces nouveautés signifient que le régime a changé radicalement, que l'on est déjà entré en Chine dans le post-communisme ou le post-socialisme. Selon eux, le Parti communiste est en train de devenir un parti autoritaire normal, présidant à la mise en place d'une économie capitaliste et d'un État fort de type moderne. Pour les dirigeants des grands pays occidentaux, confrontés à la question de la collaboration avec la Chine, c'est-à-dire avec un pays qui paraît assez peu respectueux des principes internationaux des droits de l'homme, la cause est entendue. Il faut participer au développement économique de la Chine, car celui-ci mènera nécessairement à une démocratisation du régime. Cette démocratisation, elle est également et avant tout attendu et espéré par une partie de la population chinoise. Certains intellectuels, constatant l'apparition d'une classe moyenne dans les villes et la nécessité de gérer les problèmes sociaux qui sont nés du retrait de l'État d'un grand nombre de secteurs de l'économie, estiment que le régime devrait et pourrait s'orienter rapidement vers une forme de social-démocratie. Les uns comme les autres vont, à mon avis, un peu vite en besogne. En effet, sans nier les bouleversements auxquels le Parti communiste chinois a présidé depuis le début des réformes, il faut également savoir reconnaître ce qui n'a pas changé, ou pas fondamentalement changé, en Chine. C'est justement le contraste entre le maintien obstiné du système politique et l'évolution très rapide du paysage économique et social qui m'amène ce soir à poser d'abord la question de la nature du régime chinois aujourd'hui et ensuite celle de son évolution possible. Donc passons à la nature du régime chinois d'aujourd'hui et d'abord à ses origines. Car pour répondre à cette question, il faut tenter de définir le système qui existait avant la réforme. Cette tâche est sans doute plus aisée que celle de définir le système actuel. En effet, le régime établi par Mao à partir de 1949 était clairement imité de celui qui existait en URSS. Il constituait une variante du système communiste de type stalinien. Et en tant que tel, on peut le ranger dans une catégorie plus large, le totalitarisme. Ce concept a d'abord été utilisé pour décrire le fascisme italien des années 1920-1930, puis différents auteurs, dont Hannah Arendt, l'ont appliqué au régime nazi et au régime communiste stalinien. Quelles qu'aient été par ailleurs leurs différences, ces régimes avaient été en effet porteurs d'une nouvelle forme de despotisme qui a profondément marqué l'histoire du XXe siècle. Les principaux critères reconnus comme ceux du totalitarisme sont le monopole de l'activité politique attribué à un parti unique, omniprésent, une idéologie officielle incontestable que ce parti impose grâce à un monopole des moyens de communication, l'abolition de toute limite légale à l'action de l'État, donc l'envers, la contraire d'un État de droit, et corollairement, le refus de reconnaître, en théorie ou en pratique, les libertés individuelles. Le contrôle direct de l'économie par l'État a été souvent cité dans la mesure où il était inscrit dans le projet communiste, du totalitarisme communiste, et où il a été effectivement mis en œuvre et a renforcé considérablement l'emprise du pouvoir sur la société. Malgré tout, je pense que ce critère n'est pas décisif. J'y reviendrai. En revanche, j'insisterai sur le contrôle de toute organisation sociale, qui me semble, lui, un critère décisif. Celui-ci découle d'une conception fondamentale des totalitarismes que Claude Lefort a appelé le fantasme de l'un ou du peuple un, c'est-à-dire la dénégation de la division entre l'État et la société et des divisions internes à la société. Le parti unique est l'agent privilégié de cette identification et de cette homogénéisation, aidé dans cette entreprise par les organisations de masse qu'il contrôle. Ce parti unique, qui fonctionne de façon très centralisée, a un chef suprême qui symbolise l'unité du peuple et de l'État. Dans ce type de régime, la société civile n'existe pas. Elle est absorbée par l'État. Il ne reste plus que des masses que le pouvoir mobilise à sa guise et selon ses objectifs. Ces critères étant posés, il importe de différencier le mouvement totalitaire que l'on peut caractériser comme un messianisme politique dont l'ambition est de transformer l'homme et la société du système totalitaire qui est effectivement mis en place par le porteur du mouvement, c'est-à-dire le parti. Le maoïsme répond, à mon avis, parfaitement aux critères que je viens d'énoncer. Comme tous les autres partis totalitaires, le Parti communiste chinois a installé dans les années qui ont suivi sa prise de pouvoir un système de contrôle politique, économique, social, culturel, sans précédent dans l'histoire de son pays. Cette installation, qui transforme le pays en une seule et même organisation gérant une infinité de micro-organisations dépendantes, s'appuie sur des institutions nouvelles. Le certificat de résidence, qui interdit la mobilité géographique, empêche l'exode rural et fige la hiérarchie ville-campagne. Le dossier personnel, qui suit chaque individu toute sa vie et recense les avis des supérieurs comme les dénonciations des voisins. L'unité de travail, qui prend en charge l'essentiel de la vie quotidienne de ses membres, qui fournit les logements, les tickets de rationnement, qui organise l'étude politique obligatoire. Le comité de quartier, qui est l'équivalent de l'unité de travail pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui, en outre, surveille les bonnes mœurs de chacun. À la campagne, le système installé est un peu différent, mais le contrôle y est aussi très fort et la présence de l'État se fait sentir jusqu'au niveau du village, ce qu'aucun gouvernement chinois antérieur n'avait pu ou voulu faire. Cette formidable construction n'est possible que grâce à un défrichage préalable du terrain, c'est-à-dire à la destruction radicale des structures existantes dans tous les domaines. Répression et interdiction de tout groupement politique autre que le Parti communiste chinois, prise en main de tous les moyens d'information, appropriation par l'État de l'essentiel des moyens de production urbains, collectivisation, mais pas complète étatisation dans les campagnes, élimination physique ou mise au pas de tous les groupes sociaux disposant d'un prestige établi extérieur au parti. Par exemple, à la campagne, les propriétaires fonciers et les paysans riches, les chefs de clans et de familles. Dans les villes, les capitalistes, les entrepreneurs et les intellectuels. Il va de soi que toutes les associations et organisations sociales correspondant à l'ancien système disparaissent et sont remplacées par des organisations de masse. Fédération des syndicats, Fédération des femmes, Ligue de la jeunesse, etc. Toutes entièrement contrôlées par le parti, selon la théorie léniniste de la courroie de transmission. La mise en place de ce système se fait à travers un appareil de règlements et de lois, mais aussi grâce au pouvoir de conviction des mouvements politiques. La mobilisation des masses, afin d'obtenir leur soutien et leur participation active à tel ou tel objectif du parti, n'est pas une invention maoïste, puisqu'elle a été pratiquée auparavant en URSS notamment, ou en Italie fasciste. Mais Mao y a eu recours de façon beaucoup plus importante que Staline ou d'autres dirigeants communistes. Il l'a fait pour stimuler l'économie ou pour résoudre des problèmes politiques, y compris des conflits qu'il opposait lui-même à d'autres dirigeants au sein du parti. Il l'a fait aussi pour maintenir vivante l'idéologie et l'utopie révolutionnaire. Mais le résultat a été exactement l'inverse de celui qu'il espérait. La population, lasse de participer à des mouvements qui ne menaient à rien, ou qui même entraînaient des catastrophes comme le Grand Bond en avant ou la Révolution culturelle, a été profondément dégoûtée de la politique et de l'idéologie. Au sein même du parti, la majorité des membres, et surtout des dirigeants, étaient mécontents de l'insécurité dans laquelle ils vivaient, et ils souhaitaient que le régime se stabilise pour se consacrer à une tâche urgente, le développement économique. Ainsi, ce sont sans doute les excès idéologiques et utopistes de Mao qui ont amené ses successeurs à entreprendre des réformes allant plus loin dans le réalisme et dans le pragmatisme que celles entreprises par leurs collègues d'autres pays communistes à la mort de Staline ou même dans les années 1970-1980. Voyons maintenant ce qu'a été cette réforme de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping et avec lui toute la direction communiste chinoise vont reconnaître au cours du fameux 3e plénum du 11e comité central qui se tient fin 1978 la nécessité de mettre l'accent sur le développement et pour cela de réduire le temps et l'énergie consacrés aux activités politiques tout en laissant une certaine marge d'initiative aux acteurs économiques. Une nouvelle époque commence alors, dans laquelle la Chine se trouve encore aujourd'hui. Et peu à peu, la politique, qui s'appellera la politique de réforme et d'ouverture, va bouleverser le paysage économique et transformer le paysage social. Il faut noter cependant que, malgré son audace pratique, jamais Deng Xiaoping n'a renié le dogme. La remise à plus tard de certains objectifs idéologiques a été justifiée par la théorie de la phase initiale du socialisme, selon laquelle la Chine, entrant dans le socialisme avec un niveau de développement très bas et sans avoir connu de vraies périodes capitalistes, devait suivre en quelque sorte un cours de rattrapage de capitalisme. On aurait tout à fait tort, je pense, de considérer que le pouvoir d'alors avait en tête un projet politique alternatif, ni même un autre projet de société. Même dans le domaine économique, son action a surtout consisté à laisser faire. Et dans certains cas, il est allé nettement plus loin qu'il n'en avait l'intention au départ. Ça a été le cas notamment pour la décollectivisation des campagnes. De même, le développement très rapide de la petite entreprise dans les villes a été en fait imposé par la question de l'emploi qui se posait à l'époque. De même que le rééquilibrage en faveur de l'industrie légère et des services au détriment de l'industrie lourde. En fait, on a assisté, comme dans les autres pays communistes après la mort de Staline, à une libéralisation, c'est-à-dire à une auto-limitation du champ où le pouvoir exerce son contrôle, mais sans modification des structures de ce pouvoir. Cette libéralisation s'est exprimée non seulement dans le domaine de l'économie, mais aussi dans la sphère privée, où le contrôle s'est affaibli, ainsi que dans la sphère scientifique et artistique. Politiquement, en revanche, les changements ont été très limités et ont consisté essentiellement en un retour à l'avant-révolution culturelle. Il n'y a eu qu'une purge très limitée au sein du parti et pas de démaoïsation, bien que Deng Xiaoping ait reconnu 30% de mauvais dans l'action de Mao. Une vraie démoïsation aurait sans doute été délicate dans la mesure où Mao était à la fois le Lénine et le Staline du Parti communiste chinois. En attribuant tous les torts de la révolution culturelle à la veuve de Mao et à ses amis, les réformateurs ont préservé l'image du parti en tant que guide infaillible. Ils ont été également très attentifs à lui redonner son rôle d'agent privilégié de l'identification entre le pouvoir et la société. Deng Xiaoping, qui a repris le rôle de chef suprême, a su éviter l'écueil du culte de la personnalité et laisser le parti sur le devant de la scène. Par ailleurs, les organisations de masse qui avaient disparu sous la révolution culturelle ont été restaurées avec aussi peu d'autonomie qu'avant 1966. Il y a eu seulement un bref relâchement dans le domaine politique au moment où se jouait la bataille décisive au sein du parti entre les réformateurs et les néo-maoïstes, au troisième plénum. Un mouvement autonome réclamant la démocratie est apparu parmi la jeunesse des villes, notamment à Pékin. Mais Deng, qui avait approuvé le mouvement à ses débuts, lorsqu'il lui était utile, a rapidement changé d'attitude une fois fermement installé au pouvoir suprême. Il a édicté ce qu'il a appelé les quatre principes fondamentaux qui devaient gouverner l'ensemble de la société chinoise, c'est-à-dire la voie socialiste, la dictature du prolétariat, la direction par le Parti communiste et enfin le marxisme-léninisme et la pensée de Mao Zedong. Ensuite, il a demandé aux jeunes démocrates de cesser leur mouvement et ceux qui n'ont pas obéi ont été arrêtés et sévèrement punis. Ainsi, Wei Tingsheng, qui avait créé une revue parallèle et qui avait réclamé publiquement ce qu'il appelait la cinquième modernisation, la démocratie, a été condamné à 15 ans de prison. Après son procès en octobre 1979, les limites sont clairement posées. Le parti veut garder le monopole de l'organisation et de l'expression dans la sphère politico-sociale. Mais, par souci d'efficacité et de stimulation économique, il laisse un certain espace d'initiative aux acteurs sociaux. Il y a là une contradiction qui se manifeste par une incessante oscillation au cours des années 1980, entre des périodes de relâchement et des périodes de resserrement. Dès qu'il y a relâchement, la société cherche à élargir l'espace de liberté qui lui est accordé en produisant des idées ou des œuvres qui ne sont pas parfaitement respectueuses des quatre principes fondamentaux, et elle va jusqu'à tenter de s'organiser de façon autonome. Les velléités d'associations à caractère politique sont à chaque fois sévèrement réprimées. Mais dans la deuxième moitié des années 80, des salons, des équipes de rédaction de revues, des comités de lecture, de collections éditoriales et même de petits centres de recherche en sciences sociales arrivent à fonctionner de façon autonome et à véhiculer des idées très peu orthodoxes, directement inspirées de l'Occident. Cela n'est possible que grâce à la conjonction de deux facteurs. D'une part, l'existence nouvelle d'un marché qui permet de financer ces activités, et d'autre part, la tolérance, voire la complicité d'une fraction libérale au sein du parti qui est favorable à une réforme politique limitée. Ainsi, au cours des années 1980, une fraction de la société, surtout parmi les intellectuels et les entrepreneurs privés, commence à prendre conscience d'elle-même et à vouloir s'affirmer de façon autonome, même si cette autonomie est relative, car elle implique généralement des protections officielles. Mais à partir de 1987, le rejet par Deng Xiaoping, après une certaine hésitation, de toute réforme politique et le renvoi du secrétaire général libéral Hu Yaobang vont entraîner une accentuation des conflits au sein du parti et entre le parti et la société. La contradiction éclatera pendant le fameux printemps de Pékin de 1989, qui voit l'éclosion en quelques semaines d'innombrables associations d'étudiants, d'intellectuels, mais aussi d'ouvriers, se qualifiant elles-mêmes d'autonomes. Ce que réclament ces représentants spontanés de la société, c'est la possibilité de dialoguer avec le pouvoir. Et l'une des principales justifications de leur demande est le sentiment que la corruption au sein du parti a atteint un degré tel qu'une surveillance extérieure est indispensable. Cette explosion revendicative, qui touchera également bon nombre de membres de l'appareil qui sont favorables à un assouplissement des rapports avec la société, aboutira au massacre de Tiananmen, que tout le monde connaît. Deng avait finalement décidé que cette demande de dialogue était inacceptable, qu'elle constituait un défi tel qu'il justifiait le déchaînement de la violence militaire contre une population désarmée. Deng installe alors au pouvoir Jiang Zemin, qui restera secrétaire général du parti jusqu'au 16e congrès en novembre dernier. Cette longue période de plus de 13 ans est remarquable à la fois par la stabilité politique et par la rapidité de la croissance économique et des changements sociaux qui la caractérisent. Ce contraste n'est que le résultat logique de la voie à la fois claire et contradictoire sur laquelle Deng a lancé la Chine au début des réformes, celle de ce qu'il a appelé le socialisme aux couleurs de la Chine. La stabilité politique, qui est aussi une stagnation politique, s'explique par l'élimination complète de la tendance libérale au sein du parti après le 4 juin 1989 et par la crainte de la part de la nouvelle direction d'une évolution semblable à celle de l'URSS et de l'Europe de l'Est au cas où des réformes seraient tentées. Elle s'explique aussi par le succès de la réforme économique vigoureusement relancée en 1992 par Deng Xiaoping. En effet, les frustrations politiques, notamment parmi les intellectuels et la jeunesse des villes, ont été relativement compensées par les possibilités d'améliorer son niveau de vie et de goûter aux joies de la société de consommation de type occidental. Par ailleurs, l'absence de liberté politique est rendue moins pénible qu'à la fin de l'époque maoïste par le relâchement des contrôles dans la vie privée et professionnelle. La mobilisation politique a été fortement réduite, si bien que ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement ou ceux qui ne sont pas intéressés par la politique ont la possibilité de s'occuper d'autre chose. De même que ceux qui ne supportent pas les contraintes de l'unité de travail d'État ont la possibilité de créer leur petite entreprise individuelle ou de travailler dans une entreprise privée, chinoise ou étrangère. Donc, voyons maintenant comment on peut caractériser le système qui résulte de cette évolution historique que je viens de décrire brièvement. Les changements que je viens de décrire font qu'il apparaît aujourd'hui impossible de caractériser le régime politique chinois comme un totalitarisme pur et dur du type de ceux qui ont existé dans les années où ce concept a été créé et développé. Cependant, il me paraît tout à fait impossible de le ranger dans l'une des deux autres catégories de régimes politiques modernes couramment utilisés, la démocratie ou l'autoritarisme. Pour la démocratie, il me semble que les raisons en sont évidentes. Quant à l'autoritarisme, il s'agit d'une catégorie fourre-tout qui a été utilisée de façon beaucoup trop lâche. L'un des principaux, des meilleurs théoriciens de cette division en trois catégories, qui s'appelle Juan Linz, a lui-même reconnu que cette division était insuffisante. Et ainsi, en s'appuyant sur des études très sérieuses, il a calculé qu'en 1985, sur 167 pays dans le monde, 42 pouvaient être considérés comme démocratiques et 9 comme totalitaires, ce qui en laissait 116, soit 69%, dans la catégorie autoritaire. Une catégorie aussi large n'avait évidemment que peu d'utilité pour l'analyse. Il a donc proposé en 1996 d'introduire deux nouvelles catégories, dont une nous intéresse ici, celle de post-totalitarisme. Elle s'applique à des régimes qui ont été totalitaires, mais qui ont évolué en conservant certaines caractéristiques importantes du système totalitaire. Cette catégorisation me paraît s'accorder à la réalité du système politique chinois aujourd'hui. Certes, il existe une ambiguïté dans le terme de post-totalitarisme, exactement comme dans celui de post-modernisme. Est-on vraiment après ou plutôt dans une seconde phase postérieure de la même période historique? On pourrait peut-être préférer le terme de totalitarisme réformé ou de totalitarisme réaliste. Un sinologue anglais a utilisé, pour décrire la Chine récente, le terme de stalinisme de marché, qui est un peu, évidemment, monstrueux. Ce qui me paraît ici, en fait, plus important que le choix d'un terme, c'est de mettre en relief les caractéristiques essentielles du régime politique chinois et de préciser ce qui a changé et ce qui n'a pas changé depuis la période maoïste. Ce que l'on constate d'abord, c'est que l'ambition totalitaire n'est pas remise en question par le pouvoir lui-même. Les quatre principes fondamentaux sont toujours officiellement en vigueur et la théorie des trois représentations que Jiang Zemin a fait entériner au 16e congrès n'en est, à mon avis, qu'une adaptation pour des temps nouveaux. Et le fait même que Jiang Zemin se soit senti obligé de produire une telle actualisation de l'idéologie officielle et qu'il contraigne tous les cadres chinois à l'étudier, selon la tradition du parti, montre bien que, dans l'esprit des dirigeants, l'idéologie a toujours un rôle à jouer. Selon cette théorie de Jiang Zemin, le Parti communiste a toujours représenté, représente et représentera toujours en Chine les forces productives les plus avancées, la culture la plus avancée et les intérêts fondamentaux du peuple. Ce sont les trois représentations. Il n'y a là, en principe, rien de très nouveau. Cependant, le lancement de cette théorie au printemps 2000 a pris une signification particulière dans la mesure où, depuis 1997, surtout, le parti semblait avoir abandonné la classe ouvrière au triste sort du chômage. Autrefois respectée symboliquement en tant que maîtresse du pays et favorisée en tant que classe fonctionnarisée, la classe ouvrière avait connu en quelques années, depuis les années 90 et surtout depuis 1997, des millions de licenciements et la perte de ce qu'on appelle le bol de riz en fer, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, est devenue une menace pour tous les ouvriers et employés. Dans un sens, la théorie des trois représentations justifiait a posteriori cette situation. Si le parti représente plus particulièrement les forces productives les plus avancées, son lien avec la classe ouvrière pléthorique d'une industrie d'État qui est largement arriérée, ne peut plus être privilégié. Aujourd'hui, ceux qui représentent la modernité sont les ingénieurs, les techniciens et plus encore les entrepreneurs et les hommes d'affaires. Le discours prononcé par Tiang ensuite le 1er juillet 2001 pour le 80e anniversaire du parti est venu confirmer cette mise à jour de l'attitude du Parti communiste chinois à l'égard des différentes couches de la société. Il y déclarait en effet que des entrepreneurs privés pourraient désormais entrer au parti. L'acceptation de capitalistes au sein du parti du prolétariat n'est pas un événement aussi révolutionnaire que de nombreux observateurs extérieurs l'ont cru. D'abord parce que ce n'est pas vraiment une politique nouvelle. Depuis 1982, certains entrepreneurs privés avaient déjà été encouragés à entrer au parti. Et plus fondamentalement, du point de vue de la conception totalitaire des relations entre le parti et la société, cette acceptation est logique. Si le parti a toujours, dans la situation économique nouvelle qui résulte de 23 années de réformes économiques, la prétention de représenter les intérêts de l'ensemble de la société tout en représentant particulièrement les forces productives les plus avancées, il ne peut pas laisser sur le bas-côté un des éléments les plus dynamiques de l'économie d'aujourd'hui. Il est de sa part beaucoup plus intelligent de coopter un certain nombre de capitalistes en son sein que de les abandonner dans la société où ils pourraient être tentés de s'organiser de façon autonome. D'ailleurs, la question qui se posait en fait était plutôt de savoir s'il fallait exclure les capitalistes du parti. En effet, de nombreux patrons d'entreprises privatisées sont d'anciens responsables d'entreprises d'État ou de bureaux en charge de ces entreprises d'État, qui étaient en fait déjà membres du parti. Cette politique ne fait donc qu'entériner la transformation en cours de la classe bureaucratique en classe de bureaucrate-entrepreneurs. Elle a en outre l'avantage de donner à bon compte une image moderne, managériale, du Parti communiste chinois auprès des investisseurs étrangers. Le parti, donc, a su s'adapter tout en conservant ses ambitions. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à mettre en œuvre les moyens à sa disposition pour les réaliser. En ce sens, le rapport de domination entre le pouvoir et la société n'a pas fondamentalement changé, même s'il s'est nettement assoupli. Ainsi, le contrôle de l'idéologie et de l'information est resté très serré. L'idéologie n'a plus le rôle dynamique, transformateur qu'elle avait sous Mao, mais elle garde une fonction de légitimation, surtout depuis qu'elle est renforcée par une forte dose de nationalisme. En outre, la propagande rituelle qui de nos jours continue à se déverser par tous les canaux disponibles a une fonction négative, celle d'interdire l'expression d'autres idées potentiellement subversives. Dans la tradition stratégique héritée de Mao, il s'agit d'occuper le front de l'idéologie. Bien sûr, on n'est plus tolérant qu'à l'époque maoïste, mais tout franchissement d'une ligne volontairement floue et arbitraire entraîne la répression. On n'envoie plus massivement les intellectuels en camp ou dans les villages, mais on arrête et on emprisonne encore des intellectuels parce qu'ils ont voulu créer un groupe politique ou parce qu'ils ont prétendument livré des secrets d'État à des chercheurs étrangers. La prison est toujours là pour faire peur. De façon plus courante, lorsque le département de la propagande estime que les principes idéologiques ont été violés ou que des faits ont été révélés qui ne devaient pas l'être, le pouvoir ferme des revues ou des journaux et ou remplace leur rédacteur en chef. il renvoie des chercheurs ou des enseignants, ou il interdit à toute publication d'accepter leurs articles. En règle générale, une porte de sortie est laissée aux intellectuels qui ont une réputation internationale, le départ à l'étranger. Mais dans ce cas, ils ne sont jamais certains de pouvoir revenir. Dans le domaine des arts et des lettres, la situation n'est pas fondamentalement différente. Même si la zone d'indifférence qui est concédée par le pouvoir y est assez large, on interdit encore des œuvres et on punit ceux qui les publient, en fermant, par exemple, leur maison d'édition. Le contrôle sur l'information est évidemment encore plus strict. La liberté de la presse avait été en 1989 un thème favori du mouvement démocratique et de nombreux organes de presse avaient commencé à la pratiquer. La reprise en main a été sévère. Aujourd'hui, l'information reste un domaine très contrôlé, même si les méthodes ont dû s'adapter à l'ère de la mondialisation. Par exemple, pour les événements internationaux, le blocage complet de l'information est beaucoup moins utilisé qu'à l'époque de Mao. Le filtrage tendancieux est souvent plus efficace. Beaucoup d'espoirs ont été suscités par Internet pour l'accroissement de la liberté d'information en Chine. Il est vrai que le développement très rapide de ce nouveau média y crée de nouvelles possibilités de communication. Mais le pouvoir s'est attaché à le contrôler et à proscrire la diffusion des informations pernicieuses par son intermédiaire. Les premiers règlements concernant Internet ont été édictés un an avant qu'il ne devienne une réalité économique. C'est en 1995. Ils ont été complétés par d'autres règlements, si bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes se trouvent en prison pour avoir fait passer des informations ou des textes dissidents sur le net. Comme pour les journaux et revues, le contrôle se fait notamment en imputant aux opérateurs une part de la responsabilité des messages qui circulent par leur entremise. C'est ainsi que les principaux portails ont obligation de pratiquer eux-mêmes la surveillance et la censure des sites qu'ils permettent de contacter. Cela n'empêche pas d'ailleurs la présence dans chacun d'entre eux de plusieurs censeurs officiels chargés d'effacer les messages interdits sur les sites de discussion ou d'information grâce à des systèmes très sophistiqués de mots-clés qui permettent de repérer très rapidement les messages qui doivent être supprimés. D'ailleurs, comme tout est technique, l'informatique peut servir autant à restreindre la liberté qu'à la promouvoir. Ainsi, le pouvoir chinois est en train de mettre en place une centralisation de tous les fichiers informatiques du pays qui va renforcer son contrôle sur chaque individu. Le régime chinois exerce donc toujours un contrôle serré sur l'idéologie et l'information. Mais le domaine le plus crucial, à mon avis, est celui de l'organisation. Le point sur lequel le régime post-maoïste me paraît différer le plus nettement d'un régime autoritaire banal, c'est le caractère systématique de son refus d'accepter l'existence d'organisations sociales hors de son contrôle, même si elles ne semblent pas représenter clairement un danger politique. Ainsi, après la signature par le gouvernement chinois en 1998, de la Convention internationale sur les droits politiques et sociaux qui stipule le respect du droit d'association, des vétérans du mouvement démocratique ont décidé de déposer une demande d'enregistrement d'un parti démocrate chinois dans plusieurs villes. Non seulement leur demande n'a pas été acceptée, mais ils ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines. Les syndicats indépendants sont également prohibés de façon absolue. Ceux qui s'étaient créés quelques semaines ou quelques jours avant le massacre de Tiananmen ont été réprimés sévèrement. Depuis, toutes les tentatives de créer de tels syndicats, même sur une échelle extrêmement réduite, entraînent de lourdes peines de prison. Ces dernières années, le régime s'est trouvé confronté à une multitude de mouvements spontanés et isolés de protestations sociales. Qu'il s'agisse de paysans victimes d'extorsion de la part des cadres locaux, d'ouvriers mis au chômage ou de retraités qui n'ont pas été payés depuis de nombreux mois, la réponse du pouvoir est toujours la même. Isoler le mouvement en bloquant l'information et en interdisant tout contact entre les plaignants et d'autres groupes se trouvant dans une situation semblable, satisfaire éventuellement une partie des revendications, notamment en débloquant des crédits, mais toujours punir les meneurs, c'est-à-dire les organisateurs, par exemple en les accusant de troubles de l'ordre public. Ces méthodes ne sont pas nouvelles. En cas d'action collective spontanée, les meneurs ont toujours en Chine été systématiquement recherchés ou même inventés, et la prise de contact avec d'autres personnes ou groupes dans le même cas a toujours constitué un facteur très aggravant. Dans un système totalitaire, chaque tentative de créer des liens horizontaux est par définition mauvaise, car elle perturbe le fonctionnement vertical de l'organisation. Normalement, dans ce type de régime, les seules organisations populaires légitimes sont les fameuses organisations de masse inféodées au parti. Ces organisations fonctionnent toujours aujourd'hui. Mais de nouvelles organisations sont apparues parce que la diversification sociale et le retrait de l'État du domaine de la vie privée et son abandon de l'ambition d'offrir à chaque citadin des moyens de subsistance ont entraîné la nécessité d'une tolérance à l'égard de la création d'organisations non directement contrôlées. C'est ainsi que sont apparues des associations professionnelles, des chambres de commerce, des fondations charitables, des associations d'entraide, des clubs de célibataires, etc. De même, les nécessités de la coopération internationale ont obligé à encourager la création d'équivalents chinois de certaines ONG étrangères. Mais si le pouvoir a laissé se développer une importante activité associative, il a fait en sorte que celle-ci pallie au mieux son désengagement sans pour autant créer des forces sociales réellement autonomes. Il insiste d'ailleurs sur le rôle des organisations sociales comme soutien à sa propre action et continue à prétendre guider toutes les politiques sociales, déléguant simplement l'exécution à ces organisations. Le sinologue Tony Sage a justement noté que ce n'était pas un hasard si le gouvernement chinois évitait d'employer le terme d'organisation non gouvernementale, parce qu'il marque une séparation, voire une opposition par rapport au pouvoir politique, et s'il préfère employer le terme neutre d'organisation sociale. Le statut de ces entités est d'ailleurs ambigu en Chine. Certaines sont en fait entièrement sous le contrôle de l'État et ont été suscitées par lui. On les appelle en chinois à moitié non officielles. Et même en anglais, le terme, c'est GONGO, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales organisées par le gouvernement. De façon plus générale, toute organisation non officielle doit être parrainée par une organisation officielle qui est son unité d'enregistrement. À la fin des années 1980, la complicité de certains cadres avait permis à des intellectuels de créer de cette façon des organismes relativement autonomes. Mais le régime a publié une loi sur les associations en 1998, ainsi que divers autres règlements, destinés à combler cette possible faille. Les parrains sont aujourd'hui plus nettement responsables des activités des organisations qui s'inscrivent sous leur égide. Ces associations ne sont donc pas tout à fait non officielles, puisque les dirigeants des organismes officiels dont elles dépendent sont encouragés à les contrôler d'assez près pour éviter des ennuis. Cette mesure décourage même ces derniers d'accepter de se porter garant de nouvelles associations risquant de déplaire aux autorités. Le pouvoir, en outre, est très attentif à contenir ces groupes dans des limites géographiques et professionnelles étroites. Ainsi, il est interdit aux organisations nationales d'établir des filiales locales. Les récentes mésaventures du groupe de gymnastique méditative Falun Gong ont montré que le régime reste très vigilant contre la possibilité d'émergence d'une organisation incontrôlée. Ce groupe faisait partie de toute une nébuleuse d'organisations de Qigong dont les exercices respiratoires sont censés renforcer l'énergie des pratiquants et éventuellement leur donner des pouvoirs spéciaux, physiques ou spirituels. Ces organisations se sont beaucoup développées au début des années 1990 avec la bienveillance d'un régime qui préférait voir la population occupée à des activités non politiques et inspirées par la tradition chinoise plutôt que pervertie par la pollution spirituelle occidentale. Le Falun Gong était membre de l'officielle Association de recherche sur le Qigong. Le problème est apparu quand il a été expulsé de cette association après une campagne lancée par certains idéologues marxistes contre les superstitions anti-scientifiques propagées par ces groupes. Le Falun Gong, qui devenait une organisation illégale puisque non garantie par un organisme officiel, s'était transformé entre-temps en une organisation dotée d'une doctrine officielle, l'enseignement moral et religieux de son gourou à coloration bouddhisto-taoïste et d'une structure souple mais efficace. Ses adeptes se comptaient par millions dans toute la Chine, dont bon nombre de militaires et de membres du parti et beaucoup de retraités. Fort de son succès, le gourou Li Rongzhe a décidé de mener la bataille pour être de nouveau reconnu. Mais il a préféré le faire à partir des États-Unis. Après divers affrontements locaux au cours desquels quelques membres furent arrêtés, le groupe a réussi le tour de force d'envoyer 10 ou 15 000 personnes entourer les hauts murs de Zhongnanhai, le Kremlin chinois, le 25 avril 1999, sans que les services de sécurité n'aient eu vent par avance de leur action. Ce coup d'éclat a entraîné, à partir du 22 juillet 1999, une campagne officielle de dénonciation et de répression sans précédent depuis 1989. L'ampleur et la violence des moyens mis en œuvre ne pouvaient certainement pas s'expliquer par les risques réels contenus dans l'idéologie, peut-être farfelue, mais en tout cas non violente, du gourou. C'est bien évidemment la capacité organisationnelle de ce groupe, au niveau national et même international, qui est à l'origine de cette campagne. Cette campagne montre également que le pouvoir a maintenu en place tout le système répressif qui existait autrefois. Je n'entre pas dans le détail, mais il y a eu tous les mouvements, toute une campagne très très dure et qui a mobilisé tous les médias et la population. Et il y a eu énormément d'arrestations, de dénonciations. On a utilisé les anciennes méthodes consistant à forcer les adeptes à écrire des lettres de renonciation à leurs idées, à leurs idéaux, etc. Selon vraiment la tradition totalitaire ancienne. Donc, on voit que tout ce système fonctionne toujours, et la façon, la différence est évidemment que l'activation de tout ce système répressif est évidemment beaucoup moins fréquente qu'à l'époque maoïste, et que ses objectifs sont plus ciblés. Par ailleurs, la façon dont fonctionne l'État n'a pas non plus fondamentalement changé. C'est toujours le parti qui prend les grandes décisions. Il fonctionne selon les règles habituelles et il continue à recruter massivement, notamment dans la jeunesse estudiantine. Chacun sait que la carte du parti est indispensable à la réussite sociale. Donc le pouvoir est toujours aujourd'hui celui d'un État-parti. Face à lui, il n'existe toujours aucune institution juridique ou sociale capable de jouer un rôle de frein, de contrôle ou de contrepoids. Le système judiciaire s'est certes développé et modernisé depuis le début des réformes, mais il reste totalement inféodé au pouvoir politique. La dissidence chinoise, qui possède des personnalités de valeur, dont la plupart se trouvent à l'étranger, n'a pas un impact très important sur, les événements politiques chinois, hein, d'autant qu'elle n'a pas obtenu le soutien international qu'avaient obtenu les dissidents soviétiques et d'Europe de l'Est. On peut donc dire, pour conclure cette partie, que sous Deng Xiaoping et Jiang Zemin, le régime chinois a abandonné la prétention utopique de transformer l'homme et la société selon le modèle marxiste et qu'il a graduellement et partiellement remplacé l'économie planifiée de type socialiste par une économie où le marché et les méthodes capitalistes jouent un rôle de plus en plus grand. Cela l'a conduit à relâcher son contrôle de la vie privée des individus ainsi que de la vie économique. Mais ce retrait n'est que partiel et surtout il s'agit d'une auto-limitation qui ne modifie pas fondamentalement le rapport existant entre État et individu. Le pouvoir a donc toujours les moyens, si cela lui paraît indispensable, d'imposer sa volonté dans tous les domaines, y compris celui de la vie privée, comme le montre l'exemple de la politique drastique de contrôle des naissances qui continue à être appliquée. Il s'est donc replié sur la citadelle que constituent les quatre principes fondamentaux, mais cela ne l'empêche pas de surveiller de près tout ce qui se passe autour de la citadelle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucune force potentiellement dangereuse ne puisse émerger dans cet espace public. Il n'existe ainsi en Chine aucune organisation capable de jouer le rôle qu'ont joué l'Église ou le syndicat Solidarité en Pologne, ni même la charte 77 en Tchécoslovaquie. Cette détermination farouche du régime chinois à faire le vide autour de lui est remarquable. Elle a sans doute des racines historiques, mais elle découle d'abord de la tradition de destruction de toute société civile qui est celle des régimes totalitaires. Elle a été en outre renforcée par la grand-peur qu'ont connue les dirigeants du PCC au moment du mouvement de Tiananmen, puis après l'effondrement du communisme en Europe de l'Est et en URSS. Voilà, pour ce qui est de l'évolution possible, je vais essayer d'être bref. Disons que ce maintien d'un élément important du totalitarisme, le refus d'autoriser des formes autonomes d'organisation et d'expression de la société civile, est inquiétant pour ceux qui souhaitent une évolution démocratique pour la Chine. Car tous les exemples réussis de transition pacifique vers un régime démocratique ont montré la nécessité d'un dialogue entre les représentants réformateurs du pouvoir et des personnes ou des groupes ayant un minimum de légitimité et d'expérience en tant que représentants de la société civile. Si le pouvoir changeait d'attitude, il est évident que de tels groupes ou personnes émergeraient. Mais le problème fondamental, c'est que près de 14 ans après le mouvement de Tiananmen, on ne voit aucun signe chez les dirigeants chinois d'une volonté de démocratiser le régime. Il y a bien sûr des raisons qui pourraient inciter le pouvoir à s'orienter vers la démocratie ou du moins vers une forme d'autoritarisme plus tolérante à l'égard de certaines forces sociales extérieures au parti. La première, c'est le problème de la corruption, dont on voit mal comment le régime pourrait le contenir dans des limites raisonnables sans faire appel à des contre-pouvoirs comme celui de la presse. Par ailleurs, il est probable que l'évolution générale du niveau de vie et d'éducation renforcera dans une partie de la population la revendication de participation politique. Mais cela ne mènera pas forcément à un succès de cette revendication. La croyance très répandue selon laquelle l'accession de la Chine à un certain niveau de développement entraînera un passage quasi automatique à la démocratie me paraît illusoire. Un passage aux politiques est inévitable à un moment ou à un autre, ce qui implique des conflits, des sacrifices, des négociations et peut-être des violences. Historiquement, en fait, la plus forte chance pour que le pouvoir se sente obligé de rechercher un nouvel équilibre de ses rapports avec la population serait sans doute une crise économique. Historiquement, si les partis communistes soviétiques et européens se sont lancés dans des réformes, c'est parce qu'ils étaient confrontés à une impasse économique. Mais une crise économique, dans le cas où le pouvoir resterait intransigeant, ne mènerait pas nécessairement à un système démocratique. On peut très bien avoir des troubles qui ne mènent pas à un système de type démocratique, mais au contraire à une autre forme de dictature, par exemple militaire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le Parti communiste chinois n'est pas dans cette situation, puisque le pays connaît des taux de croissance économique très élevés. Il n'est donc pas contraint de rechercher un nouveau type de légitimité en engageant le dialogue avec la société. Il lui sera de plus en plus difficile de concilier le dogme officiel marxiste-léniniste avec la réalité économique et sociale. Il est évident, ces dernières années, que le parti ne s'intéresse plus guère aux masses ouvrières et paysannes, mais que l'élite politique qu'il représente cherche à s'allier avec l'élite économique des entrepreneurs et avec l'élite intellectuelle des divers spécialistes pour tirer au mieux profit des avantages apportés par la transformation capitaliste de l'économie. Mais il est difficile d'imaginer que cette élite privilégiée ait envie de donner la parole aux dizaines de millions d'ouvriers et d'employés qui ont été mis au chômage ou de paysans qui se battent contre des taxes écrasantes ou l'expropriation de leurs terrains. S'il y a modification volontaire des formes politiques, il y a donc peu de chances, à court et même à moyen terme, qu'elle aille dans le sens d'une démocratisation. En fait, depuis quelques années, certains traits du régime font plutôt penser au fascisme. On peut citer notamment la priorité donnée au nationalisme dans la propagande, les liens intimes entre le parti et une couche de grands capitalistes issus du sérail, l'accroissement continu de l'écart entre les riches et les pauvres, ainsi que la répression des intellectuels libéraux et des activistes syndicalistes. Évidemment, il est peu probable que le pouvoir chinois se convertisse ouvertement au fascisme, mais il est possible que, de facto, son post-totalitarisme incorpore des éléments de type fasciste correspondant mieux à sa réalité socio-économique que les slogans officiels à la gloire du prolétariat. En conclusion, je dirais que, quoi qu'il en soit de l'avenir, le maintien au pouvoir du Parti communiste chinois et l'apparente stabilité de son système hérité du totalitarisme, alors même qu'il se trouve pris dans une transformation spectaculaire de son économie, font ressortir le caractère à tout le moins incertain du sentiment qui a prévalu après l'effondrement du communisme en URSS et en Europe de l'Est. À ce moment, beaucoup ont pensé et écrit que la démocratie avait gagné la bataille et que, peu à peu, tous les régimes de la planète l'adopteraient, ce qui pouvait être assimilé à une fin de l'histoire, comme l'a écrit Francis Fukuyama. Personne ne peut prédire l'avenir, mais si l'économie de marché et le capitalisme semblent avoir remporté la victoire sur l'économie planifiée étatique, il est important de rappeler qu'au début du XXIe siècle, ni la démocratie ni les droits de l'homme n'ont gagné la bataille au niveau mondial. En Chine, en tout cas, qui représente un cinquième de l'humanité et que l'on présente comme la prochaine superpuissance, la démocratie est loin d'avoir gagné et le vieux totalitarisme a su s'adapter à des temps nouveaux sans renoncer à l'essentiel. Cela ne signifie pas que la démocratie n'arrivera jamais, ni que les démocrates chinois ont tort de se battre pour son avènement. Au contraire, cela signifie qu'il ne faut pas avoir une conception européocentriste du monde et que la fin de l'histoire n'est pas pour demain.
Le rattachement de Hong Kong à la Chine, ainsi que la perspective des Jeux Olympiques futurs, ne vont-ils pas intervenir sur le comportement futur des dirigeants chinois ?
Je pense que l'un et l'autre, enfin le rattachement de Hong Kong à la Chine est déjà une réalité, hein, et la tenue des Jeux Olympiques aura lieu en 2008. Je pense que ce sont des événements qui ne sont pas décisifs, mais qui ont une certaine importance. Le problème, c'est dans quel sens ils vont. Je crois qu'ils vont avant tout dans le sens d'un renforcement de la puissance nationale chinoise et donc, dans une certaine mesure, de la légitimité du pouvoir en place. Et donc, ils iraient, à mon avis, pas nécessairement dans le sens d'une évolution démocratique. Au contraire, le Parti communiste chinois a montré, avec la réunification de Hong Kong à Taïwan, la réunification de Hong Kong à la Chine, au continent, Taïwan est une autre question, et un peu la question de l'avenir. Cette réunification a permis un effort de propagande particulier, un succès particulier au Parti communiste chinois qui a dit, voyez, hein, aujourd'hui, grâce au Parti communiste chinois, la Chine est forte, hein, et peut revenir sur les faiblesses, les résultats des faiblesses de la Chine dans le passé. Donc, voilà, il me semble que si ces deux événements influent, c'est plutôt dans le sens d'un renforcement du pouvoir fort du Parti communiste chinois.
Je voulais revenir également sur la question de Hong Kong, parce que ça me semble quand même être un bon exemple, puisque vous semblez tout de même être un spécialiste, que vous connaissez bien Hong Kong. Est-ce qu'on pourrait faire à travers Hong Kong une analyse par rapport à ce que vous décrivez qui renforcerait cette analyse, ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé, ou est-ce qu'on peut dire que le système se maintient? Est-ce que, par exemple, sur le plan justement des liens avec la société, parce que je pense qu'économiquement, effectivement, le pouvoir a encouragé le développement, au contraire. Et puis, deuxième question, toujours aussi par rapport à Taïwan. Alors, est-ce que le processus d'un rattachement, ou brutal ou consenti, à votre avis, va véritablement se faire dans les années à venir? Ou est-ce que là aussi, il est impossible pour l'instant de répondre à cette question? Merci.
Oui, bon, là sont deux questions importantes. Bon, la première, sur Hong Kong. J'ai bien suivi les affaires de Hong Kong. Si vous voulez, en ce qui concerne l'effet du rattachement de Hong Kong en Chine même, je pense qu'il a été, il est double. Bien sûr, il a permis au pouvoir de renforcer son image de pouvoir fort et respecté auprès de la population, et donc finalement, ça l'a renforcé. D'autre part, c'est vrai que le fait que de plus en plus de gens puissent aller à Hong Kong, de plus en plus de continentaux vont à Hong Kong, fait qu'ils découvrent autre chose et qu'ils peuvent avoir des idées nouvelles, puisque la société hongkongaise est évidemment différente, plus libre que celle du continent. Mais, à mon avis, cet effet-là n'est pas très important, et il est moins important qu'il l'a été à une certaine époque. En fait, Hong Kong a joué un rôle peut-être plus important dans les années 1980, au moment où on créait en Chine les zones économiques spéciales autour de Hong Kong, de Macao. Et à cette époque, on disait que la Chine regardait vers le Guangdong, donc la province du Sud, que le Guangdong regardait vers la zone économique spéciale de Shenzhen, et que Shenzhen regardait vers Hong Kong. Et donc, en fait, toute la Chine regardait vers Hong Kong. Mais en fait, ce qui était important dans le modèle de Hong Kong, c'était le succès économique, c'était le capitalisme un peu sauvage de Hong Kong, plus qu'un modèle politique, si vous voulez. Et donc, de ce côté-là, il me semble que politiquement, Hong Kong ne joue pas le rôle d'un véritable modèle alternatif. En ce qui concerne la société de Hong Kong même, on voit bien d'ailleurs qu'elle est de plus en plus... ses libertés s'effritent de plus en plus, et que la logique du pouvoir chinois s'installe petit à petit, de façon très progressive. Le gouvernement chinois est très intelligent. Ils ne veulent pas tuer la poule aux œufs d'or, comme on dit. Ils ne vont pas étouffer Hong Kong tout d'un coup. Mais il y a une logique qui se crée petit à petit, et On le voit tout à fait depuis quelques mois avec la question de la législation qui va être créée, qui va être mise en place pour répondre à l'article 23 de la loi fondamentale qui demande qu'il y ait une loi contre la subversion et la sédition contre le gouvernement central. Et là, on entre dans une logique qui est une logique qui n'est pas la logique normale, traditionnelle de Hong Kong, et qui est celle du pouvoir chinois. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi fondamentale de Hong Kong et donc qui est inévitable. Tout le problème sera évidemment la négociation sur les termes de cette loi qui va être mise en place et le niveau de restriction des libertés qui va en résulter. Sur Taïwan, alors c'est un sujet évidemment très important, c'est le prochain grand sujet pour le gouvernement chinois et je dirais même pour toute la région, parce que, et même au niveau international, parce que s'il y avait un conflit ouvert entre le continent et Taïwan, ça aurait évidemment des répercussions mondiales. Le problème, c'est que à la fois Taïwan et le continent sont tout à fait complémentaires du point de vue économique aujourd'hui même déjà. Mais en même temps, la situation réelle est qu'il y a deux États, mais que du côté chinois, on ne reconnaît pas que Taïwan est un État, on dit c'est une province de la Chine. La question est évidemment de savoir si les Taïwanais pourraient accepter de rentrer d'une certaine façon au sein de la Grande Chine. Ce serait plus facile, évidemment, si la Chine continentale se démocratisait. Il n'y aurait pas la même peur qu'il y a aujourd'hui chez les Taïwanais de se retrouver sous l'emprise d'un système qui est, comme nous venons de le voir, encore au moins post-totalitaire. Et donc, voilà, je pense que pour l'instant, c'est une situation qui est figée. Et s'il y avait une évolution politique en Chine, ça faciliterait évidemment beaucoup la solution de ce problème. Voilà. Est-ce qu'il y aura du côté chinois un agacement, un énervement tel à l'égard de l'existence de ce pseudo-État taïwanais qu'on aille jusqu'à une invasion militaire? Là, personne ne peut le dire aujourd'hui. Pour l'instant, il est évident que le gouvernement chinois est conscient du fait qu'il a besoin d'un environnement pacifique, stable, pour se développer. Donc on peut penser que dans un avenir proche, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Mais si le gouvernement chinois devient plus puissant, et si les tendances un peu fascistes que j'ai senties ces derniers temps s'accentuaient, il pourrait y avoir une tentation de régler le problème par la force. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas, mais bon, il est trop tôt pour le dire.
J'ai très bien compris, je vous remercie de nous avoir expliqué que le parti était extrêmement puissant en Chine et dominait toute la politique. Mais à la conférence d'hier, on nous a fait comprendre que, au point de vue économique et surtout financier, l'État, donc d'après ce que j'ai compris, le parti, puisqu'ils font groupe ensemble, était extrêmement faible parce qu'il avait en fait perdu le contrôle des impôts, il avait laissé toute l'économie partir dans le domaine capitaliste. Donc j'aurais voulu savoir comment vous voyez l'influence de ce paramètre que j'estime important. Oui. Sur la future politique chinoise.
Oui, oui. Non, je comprends très bien votre question, qui est une bonne question. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Le fait que le pouvoir central ait, dans une certaine mesure, perdu un peu le contrôle de l'économie locale, ou au niveau au niveau provincial ou plus bas, ne signifie pas que les gens qui ont le pouvoir au niveau provincial, local, sont extérieurs au système, extérieurs au pouvoir. Simplement, il y a à l'intérieur de ce pouvoir, il y a encore une certaine perte de contrôle des instances centrales par rapport aux instances locales. C'est en train d'être rééquilibré, l'actuel Premier ministre, qu'il est encore jusqu'en mars, Zhu Rongji, a beaucoup fait pour que le système des impôts, notamment, redevienne plus efficace et plus centralisé. Mais il est vrai que le pouvoir central ne contrôle pas tout. Mais il faut faire la différence ici entre donc, le parti, le système du politique, et puis l'administration. Souvent, en fait, le parti dans les pays totalitaires existe un peu au dépens de l'État. C'est-à-dire que le parti s'occupait autrefois de tout. Donc il y avait une administration gouvernementale qui était en fait assez faible, puisque dans chaque administration, il y avait une cellule du parti, et c'est toujours le cas, qui en fait prend les grandes décisions. Donc il faut différencier le parti et l'organisation, et l'administration. Donc le fait que l'administration ne soit pas aussi performante qu'elle devrait l'être, notamment du point de vue financier et des impôts, ne veut pas dire qu'il y a une perte de contrôle politique. C'est autre chose. Il y a un certain désordre administratif. Ce n'est pas la même chose. Et les gens qui sont en charge, en fait, qui ont la réalité du pouvoir financier, économique, aujourd'hui, ne sont pas des gens qui sont extérieurs au système. Je voulais le dire, j'avais préparé, mais je n'ai pas eu le temps parce que j'avais préparé trop de choses. Cette élite économique qui apparaît avec ses entrepreneurs, ses capitalistes, elle est dans une large mesure la même que l'élite politique, c'est-à-dire que ce sont d'anciens bureaucrates qui se sont recyclés, qui sont devenus des entrepreneurs, ou bien ce sont leurs enfants, ou leurs époux, leurs épouses. Et tout ça fait qu'il y a une homogénéité et qu'il n'y a pas, si vous voulez, l'équivalent de la bourgeoisie occidentale du XVIIIe siècle, qui était opposée et totalement extérieure à l'aristocratie. Pas du tout. On a la même classe qui, en fait, est en train de se diviser, de se modifier en classe de bureaucrates entrepreneurs. Et dans ce mouvement, il n'y a donc pas de force sociale extérieure qui puisse s'imposer face à la direction du parti. Donc, il faut bien différencier la perte de contrôle administratif du centre, de l'administration centrale par rapport à l'administration provinciale et locale, d'une véritable perte de contrôle politique qui, à mon avis, n'a pas lieu.
Je voulais vous poser une question sur le problème des masses qui se déplacent en Chine parce qu'elles sont au chômage, parce qu'elles n'ont plus rien à faire, elles n'ont plus rien à perdre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cela me paraît être un danger qui est quand même réel. Quand on regarde l'histoire de la Chine, les grandes révoltes sont nées comme ça. Et Mao, lui-même, a démarré de cette façon-là. Et je voulais savoir ce qu'il pouvait y avoir en face, si jamais un mouvement d'une grande ampleur se dessine, quelle va être l'attitude de l'armée, par exemple.
Écoutez, sur cette question de ce qu'on appelle les ouvriers migrants en Chine est évidemment, ou la population flottante en Chine est une question importante. C'est un phénomène qui s'est développé dans les années 90 jusqu'à maintenant, qui continue de se développer. Ça représente des masses énormes. Personne ne sait exactement combien de personnes se déplacent ainsi, quittent leur lieu d'origine pour aller dans les villes chercher du travail. Probablement une centaine de millions de personnes. C'est important. Ces personnes sont aujourd'hui dans la société chinoise, dans les villes chinoises, un peu dans la situation d'immigrés dans nos sociétés occidentales. Alors, ce sont des immigrés clandestins souvent, pas toujours. Le phénomène est tellement important, si vous voulez, que le système dont j'ai parlé tout à l'heure de la résidence, du certificat de résidence, qui normalement vous interdit de vous déplacer et d'aller travailler ailleurs que dans votre lieu d'origine, a été assoupli. Il était évident que l'industrie des villes avait besoin de cette main-d'œuvre bon marché et courageuse, résistante, qui arrivait des campagnes. Donc, le pouvoir a toléré ces migrations en mettant en place des certificats de résidence provisoires. Alors, bien entendu, je n'entrerai pas dans le détail, c'est très compliqué, et beaucoup de gens, finalement, ne demandent pas ou ne peuvent pas obtenir ces certificats provisoires et donc sont dans des situations illégales. Est-ce que ce phénomène peut reproduire les phénomènes qui ont eu lieu dans l'histoire chinoise au moment où, à cause de famine en général, des populations entières se déplaçaient pour chercher à manger ou pour mendier? Je ne pense pas pour l'instant qu'on soit dans cette situation. Bien entendu, s'il y avait un véritable effondrement de l'industrie et de l'économie urbaine, toutes ces personnes auraient du mal à revenir chez elles et à retrouver finalement de quoi vivre. Donc ça poserait un très gros problème. Mais en dehors d'un tel effondrement, qui de toute façon poserait des problèmes graves au pouvoir, je pense que le système, pour l'instant, est assez contrôlé, c'est-à-dire que les gens qui sont dans les villes n'ont pas les moyens de s'organiser de façon à réclamer, à exiger quoi que ce soit. En fait, beaucoup de ces travailleurs migrants vont dans des provinces du Sud travailler pour les grandes entreprises multinationales, par exemple. C'est de la main-d'œuvre bon marché. Quand ils arrivent dans une usine, on leur prend leur certificat d'identité, on leur prend tous leurs papiers et ils travaillent. Ils n'obtiennent leur salaire qu'une fois qu'ils ont fini leur travail. Ils sont dans des situations d'exploitation et de contrôle par les patrons qui sont très durs. Dans ces conditions, on voit mal comment ils pourraient, de quelque façon, se révolter de façon large. Quand on parle de Mao et de sa révolution qui est partie effectivement des campagnes, il faut bien comprendre que justement le Parti communiste chinois a eu cette expérience. Il sait ce que c'est que d'organiser des masses de mécontents. Et tout le monde vous dira en Chine, le Parti communiste chinois ne laissera jamais aucune organisation, aucun parti refaire la même chose que ce qu'il a fait. Il est extrêmement sensible à cette question de l'organisation.
J'avais l'impression qu'il y avait une misère dans les campagnes qui, opposée au luxe de la ville, commençait à être assez criante. Et que devant des ventres vides, il n'y a plus beaucoup de raisonnement et les gens y vont. Oui, donc, je veux dire que face à ça, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter une...
Tant que la croissance est aussi forte qu'elle est aujourd'hui en Chine, tant que ces personnes qui, effectivement, risqueraient de ne pas avoir assez à manger dans leur village peuvent trouver un travail, même très dur, même très mal payé en ville, il n'y a pas de raison que ces gens se révoltent, parce que dans une certaine mesure, ils vivent un progrès par rapport... j'ai beaucoup étudié la question, puisque j'ai fait une enquête sur les chiffonniers de Pékin, donc des gens qui sont vraiment au plus bas dans la société de Pékin. Pour eux, être à Pékin, c'est déjà quelque chose de miraculeux. Et même vivre péniblement en allant fouiller dans les poubelles, c'est beaucoup mieux que d'être dans leur village. Donc, tant qu'on ne les oblige pas à rentrer massivement dans leur village, ils ne sont pas trop mécontents. Donc voilà la situation. Bien entendu, ça crée des gros problèmes. Il y a des problèmes à l'intérieur des villes, notamment entre les citadins et ces gens qui sont considérés comme des étrangers, des paysans mal élevés, grossiers, en plus souvent voleurs, chapardeurs, etc. Donc il y a un petit peu, si vous voulez, dans les villes chinoises d'aujourd'hui, les problèmes qu'il y a dans les villes occidentales avec l'image de l'immigré dangereux. On a cette situation en Chine qui peut être un petit peu un sujet de friction, mais qui ne débouche pas pour l'instant vers des conflits qui prendraient une coloration politique. La différence, effectivement, l'écart de niveau de vie s'accroît énormément en Chine. Du fait des réformes et notamment de la privatisation de l'économie qui fait qu'un certain nombre de gens, et notamment des bureaucrates, deviennent de très très riches du jour au lendemain parce qu'ils s'attribuent, ils s'approprient des biens qui étaient autrefois des biens de l'État. Alors ça, évidemment, ça crée un mécontentement général dans la population. Mais pour toute cette fraction de la population qui finalement est une fraction la plus pauvre, soit les paysans dans les régions pauvres, soit ces paysans qui vont dans les villes et qui deviennent des ouvriers temporaires, on voit mal comment leur mécontentement éventuel pourrait se cristalliser. Et tout est là, toute la question est la cristallisation et la force du pouvoir post-totalitaire chinois d'aujourd'hui, c'est justement qu'il empêche toute cristallisation. À partir du moment où il y a mécontentement, où il y a protestation, on arrête les meneurs, on punit les meneurs, on contrôle, et éventuellement, d'ailleurs, on peut essayer de résoudre les problèmes. Il y a de plus en plus d'associations charitables, de choses comme ça. Mais aucune opposition, aucune protestation ne peut prendre une forme organisée dans le système tel qu'il existe aujourd'hui.
Merci Michel Bonin.